Bonsoir et bienvenue aux Informés de France Info. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La démission de Nicolas Hulot provoque le report du séminaire gouvernemental prévu vendredi. Il y a du remaniement dans l'air, on en parle tout à l'heure. Les patrons, pendant ce temps, peuvent dire merci. Le MEDEF décroche le jackpot en cette rentrée compliquée. Les violences faites aux femmes, l'agresseur de Marie Laguerre, vous le savez, sera jugé. Reste à savoir si cette affaire provoquera une sorte d'électrochoc, de prise de conscience nationale. Nous évoquerons Emmanuel Macron qui poursuit sa balade scandinave et se pose en rempart contre les populismes. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Alexia Germont.
Bonsoir.
Vous êtes présidente fondatrice du think tank, du cercle de réflexion France Audacieuse. Également invité Éric Métou. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Également Jackie Isabello. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Jean-François.
Ravi de vous retrouver. Communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Et mon complice ce soir, bonsoir Christophe Gascard.
Bonsoir Jean-François.
Journaliste, vous le savez, présentateur sur France Info, sur le canal 27. Alors nous sommes ensemble, les informés, c'est jusqu'à 21h. Cela s'appelle l'effet papillon. Il n'est pas question d'espèces protégées, mais la démission surprise de Nicolas Hulot sur France Inter hier matin a provoqué en bout de chaîne le report du séminaire gouvernemental qui était prévu vendredi après-midi à l'Élysée, après le Conseil des ministres. Le désormais ex-ministre de la Transition écologique a placé, il faut le dire, Emmanuel Macron devant une énigme. Quel sera le profil du successeur de Nicolas Hulot? La valse des prétendants a débuté. Certains jurent ne pas être candidats, à l'image de Ségolène Royal, qui a déjà occupé le poste, interviewée sur RTL ce matin.
Moi, je ne suis candidate à rien. Je m'occupe des pôles. C'est la continuité, justement, de l'accord de Paris sur le climat. J'ai créé une ONG qui continue à s'occuper, à se battre pour les questions environnementales, notamment pour l'énergie solaire en Afrique. Et je considère que la question environnementale, c'est la question de tous.
Éric Métou, elle est candidate à rien, Ségolène Royal?
Elle n'est jamais candidate à rien, mais je ne suis pas sûr qu'elle dira non si on lui propose. Mais, enfin, je vois mal Emmanuel Macron et Édouard Philippe lui proposer le poste, même si elle a la stature. C'est une des seules dans les candidats dont on parle qui a les épaules pour remplacer Nicolas Hulot.
C'est une histoire compliquée, non, de trouver un successeur, non?
Ah, c'est la quadrature du cercle, oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des candidats techniques qui sont prêts à prendre la place. Au sein de la République En Marche, il y en a un certain nombre. Il y a commencé par De Rugy ou Barbara Pompili,
ouais, y a du monde,
ou
en fait,
enfin,
oui.
Enfin, mais il faut remplacer Nicolas Hulot. C'est pas la moitié d'un héritage quand même.
Que dites-vous, Alexia Germont?
C'est en termes de stature, effectivement. Il va falloir.
Juste pour finir, c'est un ministre d'État. Et il faut trouver quelqu'un qui ait la stature. Effectivement, problème de stature, mais en plus de ministre d'État numéro 2 ou 3, je ne sais plus,
3.
Du gouvernement, oui. On ne peut pas mettre n'importe qui à ce poste-là.
Alexia Germont, vous verriez qui, vous, à ce poste? C'est compliqué de succéder à une telle icône?
C'est très compliqué. Je crois qu'on peut tous faire des paris sur des noms. Il y a soit des profils qui sont très techniques, mais il faut donner du souffle. Et là, le vrai sujet, à mon sens, pour Emmanuel Macron, est de transformer un revers politique en quelque chose de positif, avec cet électrochoc qui doit être fait. Est-ce que c'est un ministre à nouveau plus axé ou issu de la société civile? Donc on peut, de toute façon, il faut déjà qu'il reprenne la main sur le calendrier. Et je pense que le report du séminaire gouvernemental va en ce sens-là, pour pouvoir rebondir.
Jackie Isabello, vous sentez qu'il y a une forme de trouble au sommet du pouvoir, puisque ce séminaire est repoussé? On a l'impression que ça turbule un petit peu, hein.
La proximité de l'information fait que ça nous semble insurmontable. Mais très honnêtement, je pense que plus les jours vont passer, plus on va s'apercevoir qu'il est remplaçable. Regardez, si on a une lecture macronienne, on se dit on ne peut pas le remplacer. Si on a une lecture chiracienne de l'information, il faut avant tout quelqu'un qui soit un bon politique. Et on s'aperçoit que la grande faiblesse de Nicolas Hulot, au-delà du fait que c'est une icône médiatique, que techniquement il était bon, mais des bons, il y en a plein son ministère, politiquement, il était incapable de faire venir ses forces derrière lui pour le soutenir dans ses grands combats. Et cette notion de la Macronie qui dit qu'on ne fait pas, on ne fait plus de la politique comme avant, c'est quand même le deuil de cette notion-là. C'est terminé. Pour être fort dans un ministère comme celui-là, où on mange pas une couleuvre par jour, mais on en mange sans doute 10, il faut être politiquement extrêmement structuré. Il faut être totalement retort, parce que les combats sont atroces à mener, évidemment. Oui. Mais Jean-François, quand on est un homme politique, il faut être câblé de manière différente et il faut être retort, parce que vous êtes en permanence confronté face à des gens qui veulent vous imposer leurs intérêts. Donc si vous voulez avoir de grands hommes d'État en France, il faut des gens qui soient capables de défaire les intérêts des autres. Et le bon politique, c'est celui qui sait faire tout ça. Donc vous verrez, on en trouvera bien. Et si c'est une femme, eh bien, évidemment, on rajoute cette touche qui est propre à ce que Emmanuel Macron a réussi à imposer, notamment dans son gouvernement et dans ses nominations.
Christophe Gascard, c'est une question d'incarnation ou de contenu du ministère, en réalité ?
La difficulté, en fait, du gouvernement aujourd'hui, c'est de se dire, effectivement, il y a beaucoup de monde qui toque à la porte et qui souhaiterait, on pense bien évidemment à Ségolène Royal, Jean-Louis Borloo, on parle de François de Rugy, il y en a quand même deux qui sortent, c'est Barbara Pompili, et également Sébastien Lecornu, il a 32 ans. La vraie difficulté, quand même, pour le gouvernement, c'est de trouver quelqu'un qui ne va pas incarner l'ancien monde. Et toute la Macronie, en général, essaie de dire on apporte de la nouveauté. Eh bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup des anciens qui souhaiteraient revenir. Et ça va poser problème. L'autre problème, c'est, effectivement, vous le disiez il y a un instant, c'est qu'Emmanuel Macron, il souhaite être le maître des horloges. Le problème, c'est que là, depuis trois mois...
Il n'y a plus d'horloge.
Ah, l'horloge, elle est complètement les ramassée,
en fait. Non, elle
parce qu'on ne peut pas oublier qu'on a eu en plein été, quand même, cette affaire
Benalla,
qui a quand même été terrible. Et en fait, le séminaire gouvernemental de vendredi, il était là pour remettre de l'ordre dans les troupes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a Benalla, et puis aujourd'hui, il y a ça, et puis demain, il y aura peut-être encore autre chose. C'est très compliqué en ce moment pour le gouvernement.
Mais vous avez bien raison, Christophe. En plus, il y a une sorte de valse des noms, on dit en anglais de name dropping. Il est question aussi de Arnaud Leroy, qui a été placé à la tête de l'ADEME, l'Agence pour l'économie d'énergie, qui était censé, à une époque, si mon souvenir est bon, l'année dernière, vous me corrigez, madame et messieurs, censé diriger La République en marche, tout court. Donc il y a une valse de noms, j'ai la sensation même que au fond tout cela n'a pas grand intérêt. Attendons donc le verdict qui ne devrait pas tarder. Pour l'heure, il est 20h10 sur France Info. On va poursuivre sur cette idée dans un instant, ce sera juste après le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Jean-Michel Blanquer fait sa rentrée, conférence de presse pour le ministre de l'Éducation. L'occasion d'annoncer la quasi-généralisation de retour à la semaine de 4 jours. Elle concerne désormais 8 écoliers sur 10. Rentrée marquée également par l'interdiction du portable à l'école. Les 1500 coursiers roses de Foodora ne pédaleront plus en France à partir du 28 septembre. La société allemande de livraison de repas va mettre fin à ses activités dans le pays. Aucun accord n'a été trouvé avec de potentiels repreneurs. Un ancien prof de maths condamné pour apologie du terrorisme à Grenoble. Cet homme de 53 ans avait sur son ordinateur plus de 1000 photos et vidéos de propagande djihadiste. Il est condamné à 2 ans de prison. Le père de famille assure qu'il ne s'agissait que de curiosité. Les négociations entre le Canada et les États-Unis, peut-être un accord d'ici vendredi selon Justin Trudeau. Les Canadiens se disent encouragés par les progrès des discussions. Elles sont censées modifier l'accord de libre-échange nord-américain. Et puis l'US Open de tennis à New York. Les joueurs toujours écrasés par la chaleur. Les Français ont du pain sur la planche. Le jeune Hugo Humbert affronte l'expérimenté Stan Wawrinka. Gilles Simon défie Milos Raonic. À suivre ensuite Jérémy Chardy face à Kevin Anderson.
France Info.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Alors Christophe Gascard de France Info évoquait à l'instant, vous savez, le profil que devrait avoir le successeur de Nicolas Hulot. Est-ce que ce serait un politique, une société civile, ONG, peu importe. Voici ce que disait Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement sur France Inter ce matin. Il a livré quelques indices.
Avoir des personnalités issues de la société civile qui viennent avec leurs connaissances d'un secteur, qui viennent avec, au fond, une expérience qu'on avait peu vue à la tête de l'État dans des gouvernements précédents. Je pense que c'est utile.
Donc vous cherchez ça comme profil pour remplacer Hulot ?
Je ne sais pas, ce n'est pas moi
qui
cherche.
Oui, je sais bien, mais votre avis, vous ?
Moi, mon sentiment, c'est que non, ça ne disqualifie en rien et que les projets qui ont été conduits depuis 15 mois et les sujets qui ont été engagés par Nicolas Hulot, nous les poursuivrons. Vous le savez, les politiques... Eh bien, elles survivent aux personnalités qui les ont portées. Et nous, notre honneur, ce sera aussi de faire honneur à ce que Nicolas Hulot a engagé depuis 15 mois dans ce gouvernement.
Oui, Jackie Isabello, un petit lapsus au passage. C'est quoi l'idée, finalement ? On doit mettre une société civile un peu. Est-ce que cette nomenclature-là, finalement, est-ce qu'elle n'est pas un peu dépassée aujourd'hui ? Est-ce que ça ne tient pas simplement aux personnalités et aux projets ?
L'interview de Ségolène Royal que vous avez passée au début, je pense que c'est un marqueur intéressant parce que Ségolène, ce qu'elle dit, c'est elle dit « Attention, vous avez fait un test avec la société civile, même si Nicolas Hulot, c'était pas n'importe quelle personnalité de la société civile. Et maintenant, si vous remettez quelqu'un qui connaît pas la politique, on va tous vous tomber sur le dos. Et que vous fassiez une erreur, on vous le pardonne. Mais si vous mettez une deuxième fois quelqu'un qui démissionnerait ou qui ne serait pas à la hauteur, ça serait une catastrophe pour le gouvernement. Rappelez-vous quand Strauss-Kahn démissionne dans le gouvernement Jospin. On met Christian Sauterre derrière, qui se prend le tapis dans la, dans l'histoire de la cagnotte. On est obligé de réfléchir et de se dire,
c'est
bon, maintenant.
C'est l'affaire de la cassette mairie à l'époque.
Exact. Hein, oui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est dit? On fait revenir un ancien premier ministre. On se prosterne devant lui en disant, s'il te plaît, reprends Bercy. Et c'est comme ça que Laurent Fabius est revenu. Et c'était une première dans la cinquième. Donc, Ségolène Royal dit toujours, le thème est intéressant. Donc, vous ne pouvez pas nommer n'importe qui. Et voilà, elle a fait le kick-off, puisque j'utilise un terme aussi anglo-saxon,
oui,
comme vous l'avez fait.
Ah oui, merci.
Et maintenant, on veut des politiques. C'est ça qu'elle demande quelque part.
Pas n'importe qui, on veut des politiques. Éric Métou, c'est quoi le problème? Après tout, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une nomination dans la foulée, comme ça a pu se faire par le passé, et on n'en parle plus, les médias tournent la page, on passe à autre chose. Ouais. L'idée de maintenir le suspense, au fond, c'est d'entretenir, c'est ce que nous faisons ce soir d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, on entretient la machine.
Non, mais il y a une complication de plus, c'est que le remaniement ministériel, il était prévu. C'est-à-dire, il était prévu que Françoise Nyssen retourne dans sa maison d'édition. Il y a un certain nombre de ministres qui sont sur un siège éjectable. Le problème, c'est que, justement, enfin, on parlait des horloges tout à l'heure, ils pensaient contrôler le temps. Et là, le temps s'est accéléré parce que Nicolas Hulot est parti avant l'échéance. Donc, je suis pas sûr que ça vienne si vite parce qu'il y a d'autres ministres qui doivent partir. On parle de Jean-Yves Le Drian, on parle de Collomb, on parle éventuellement de Muriel Pénicaud si elle est mise en examen. Ils vont pas faire des remaniements ministériels toutes les semaines. Donc il faut déjà restabiliser un peu le...
Est-ce que ça ne serait pas griller une cartouche trop tôt?
En tout cas...
Alexia Germont peut-être?
De remanier?
Oui,
ah bah,
là,
remanie maintenant, on remplace Nicolas Hulot, puis on remanie dans trois semaines, parce qu'il va quand même bien falloir se débarrasser de Françoise Nyssen.
Vous dites ça comme ça, vous?
Bah, écoutez, c'est la... Nicolas Hulot, c'est l'erreur de casting parce qu'il est parti. Françoise Nyssen, c'est l'erreur de casting tout court. Donc, oui.
Alexia Germont, en tant que femme, vous pourriez vous élever contre les propos de votre
mari. Ça n'a rien à voir.
Non, je pense que il ne faut pas sous-estimer les capacités de rebond d'Emmanuel Macron, qui est quand même assez bon dans l'adversité. Bon. Et griller une cartouche sur le remaniement ministériel, pas forcément. Il va vouloir justement reprendre la maîtrise du temps en attendant et en faisant peut-être une, deux, voire trois cartouches à la fois. Et à ce moment-là, certes, on aura entretenu le débat, mais il ne peut pas se louper sur ce coup-ci. Et ce qu'il devait faire après les élections européennes, il est obligé de se mettre en ordre de bataille, pour le coup, avec un gouvernement qui accompagnera à ce moment-là pendant la campagne des européennes.
Et sachant qu'on rentre dans une phase très très lourde et très importante qui est la discussion du PLF et du PLFSS. Ce ne sont pas des petites lois.
Les projets de loi de finances.
Voilà, donc là on parle des comptes de la nation, on parle de tous les budgets des ministères, on parle de ce qui va orienter la politique structurelle de la France dans la prochaine année. Donc il faut qu'il y ait des ministres qui soient en capacité de porter les dossiers et qui ne peuvent pas chuter sur un chiffre à la première interview ici ou là.
Christophe Gascard.
Et puis surtout, il faut trouver un ministre de l'Environnement qui serait dans ce cas-là numéro 3. Encore une fois, on ne sait pas s'il va rester numéro 3 du gouvernement, c'est très important comme poste. Mais surtout, ils prennent le risque de trouver quelqu'un. C'est un poste de compromis où, justement, certains ne souhaitent pas faire des compromis. Il y a 14 ministres de l'Environnement en 20 ans. C'est énorme. C'est un poste extrêmement stratégique parce que il y a quelque chose, on le voit bien avec Nicolas Hulot, qui tient de l'affect. Il y a un moment, il a décidé de partir tout seul. Et le risque pour le gouvernement, c'est de trouver quelqu'un qui, effectivement, va porter ses valeurs d'écologie, mais qui, à la moindre compromission, va claquer la porte. Et ça, ça va être très difficile pour le gouvernement et l'exécutif, bien de l'accepter.
Alors, il y a le sujet dans le sujet, c'était la présence des lobbies, supposément auprès d'Emmanuel Macron, puisqu'il y avait, effectivement, Thierry Coste, qui est le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, qui participait à cette fameuse réunion qui aura ulcéré Nicolas Hulot. L'exécutif est-il aux mains des lobbies, comme certains le martèlent, à l'image de Benoît Hamon, c'était ce matin sur BFM TV.
Il dit l'État n'est pas seulement protecteur, il est devenu, en quelque sorte, prédateur. Et pourquoi est-il devenu prédateur? Parce que finalement, Emmanuel Macron, quelque part, à organiser la fusion entre la technostructure, la haute fonction publique et les grands intérêts privés. Et on en vient à cette histoire des lobbies qu'il a dénoncée. L'État cesse d'être protecteur et devient prédateur quand finalement il sert ou met sa propre puissance au service d'intérêts particuliers.
Éric Metou, les mots sont durs, hein. État prédateur, présence des lobbies, vous y croyez ?
C'est le discours de Hamon. Enfin, si lui ne tient pas ce discours, personne ne tiendra, à part Mélenchon. On le sait, Macron, il a été élu là-dessus, c'est sa politique, il favorise les entreprises. Après, les lobbies, ils sont dans les couloirs du pouvoir tout le temps, partout. Ils étaient sous Hollande. Je pense que Benoît Hamon les a fréquentés aussi. La question, c'est de savoir quel est leur rôle exact. J'ai pas la sensation. Hulot l'a dit hier. Alors, cela dit, les accusations qu'il a portées, notamment sur Thierry Herzog, sont lourdes et assez inédites. Et je pense qu'il y a un certain nombre de journalistes qui sont en train de regarder un peu ce qu'il y a sous le tapis pour le coup. Mais des lobbies, il y en a toujours eu. Et puis, j'entendais quelqu'un qui disait que c'était la démocratie, les lobbies. J'irai pas jusque-là, mais c'est le jeu de la démocratie, en tout cas.
Et puis, encore une fois, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein. Je pense pas qu'il est pas parti pour ça. Non. Il souhaitait déjà partir depuis plusieurs moments. Je veux dire, on le savait. Il n'était pas forcément à l'aise dans ce rôle-là. Et finalement, c'est effectivement la petite chose qui a fait que bon, allez.
Le petit déclic. Hein,
je pense surtout qu'il était dans un gouvernement qui a pas la fibre écologiste comme il pensait lui qu'il l'avait.
Alexia Germont, est-ce que les écologistes au fond ne devraient pas eux-mêmes se comporter en lobbyistes pour peser sur la marche de ce pays?
Oui, et j'allais dire que j'allais avoir certainement une voix dissonante, mais tant pis, je me lance.
Allez-y, au contraire.
Je me lance. Je crois que justement ce qu'a pointé comme une des raisons de sa démission Nicolas Hulot renvoie à sa propre faiblesse. Pourquoi? Les lobbies, ils seront toujours là, ils ont toujours été là et ils sont là. Notamment aussi pour éclairer le débat. Et le rôle d'un ministre, c'est d'avoir l'ensemble des lobbies qui lui apportent l'information. Et si le ministre est fort politiquement, il sait tenir à ce moment-là les lobbies à distance raisonnable. Et le fait qu'il soit finalement à l'Élysée et qu'il n'était pas présent montre justement non pas la puissance des lobbies, mais la faiblesse du politique et surtout de Nicolas Hulot.
Allez, Jackie Isabello, un petit mot là-dessus. Vous n'êtes pas choqué, vous, par l'existence, la persistance des lobbies dans les cercles de pouvoir, rapidement?
Très rapidement, ils ont même une place protocolaire. C'est-à-dire que si vous êtes invité en tant que représentant, j'en sais rien, des experts comptables à l'Élysée, on va vous dire, monsieur, vous êtes à côté d'un tel, parce que vous êtes juste dans cet ordre protocolaire, à côté de lui. Donc ils ont une place, et évidemment, ils ont un rôle, parce que ce sont des hyper experts. Là, le politique fait son boulot. S'il n'y a plus de lobby, il n'y a plus de politique.
Ah, ça fait un petit peu tiquer quand même, tout de même, Éric Metou, 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Elle est retenue en otage depuis plus de 20 mois au Mali. Sophie Pétronin pourrait recevoir la visite de son fils. Il assure que les ravisseurs proposent une sorte de trêve pour qu'il aille voir sa mère de 73 ans. Sébastien Chadeau-Pétronin appelle le gouvernement français à l'aider dans sa démarche. Emmanuel Macron assume être l'opposant principal à Viktor Orban et Matteo Salvini. Le chef de l'État dit ne pas vouloir céder aux nationalistes. Réaction après cette rencontre entre le Premier ministre hongrois et le ministre italien de l'Intérieur. Les deux hommes assurent être en confrontation directe avec le président français. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Lactalis. Des documents confidentiels ont été dérobés dans les bureaux de la répression des fraudes. Un ordinateur dont le disque dur contenait des informations sur l'affaire du lait contaminé à la salmonelle. Une trentaine de nourrissons avaient été rendus malades. Le guide suprême iranien renouvelle ses menaces. Téhéran n'hésitera pas à se retirer de l'accord sur le nucléaire. Accord de 2015 que les États-Unis ont quitté. Les Européens, eux, tentent de sauver le texte. Mais Ali Khamenei reste sceptique. Et puis une première depuis 7 ans, un Français leader sur la Vuelta, le Tour cycliste d'Espagne. Rudy Mollard endosse le maillot rouge au terme de la 5e étape. Le coureur de Groupama FDJ succède à Sylvain Chavanel, Français leader en 2011.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et les patrons, pendant ce temps, semblent relativement insensibles aux mésaventures du gouvernement. Le MEDEF, qui bouclait aujourd'hui avec Bruno Le Maire ses universités d'été de Jouy-en-Josas, n'a pas hésité à mettre en garde et le Premier ministre et le ministre de l'Économie. Gare au zigzag, l'allègement des cotisations patronales prévu au 1er janvier est reporté à octobre. Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau patron des patrons, avait donné le ton dès hier.
Monsieur le Premier ministre, nous préférons les preuves d'amour aux déclarations d'amour. Les mesures budgétaires annoncées hier par Bruno Le Maire sont un très mauvais signal.
Alexia Germont, rien ne change finalement au MEDEF, chez les patrons, c'est un peu, je cherche la formule, touche pas au Grisby.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve justement qu'il y a un vent nouveau qui souffle, si vous me permettez.
Dans le style, c'est ça ?
Alors, dans le style...
Parce que c'est jackpot pour les patrons,
alors,
quand même.
Attendez, deux choses. D'abord, hier, on a assisté quand même à un discours assez en retrait d'Édouard Philippe. On aurait pu avoir... Alors, évidemment, c'était pas le jour. On lui concède. Cela dit, en parallélisme, quand vous voyez le punch... finalement, du discours de Geoffroy Roux de Bézieux. Je trouve que c'était un discours à la fois visionnaire sur certaines choses. Il a quand même parlé de la transition écologique et climatique, de la transition environnementale. C'était un discours qui était relativement fair-play, parce que là, vous avez pris un extrait. Très court extrait, mais en reconnaissant que ce gouvernement avait en tout cas été capable de faire revenir la confiance aux entrepreneurs, avec notamment la réforme du Code du travail et également un certain nombre d'autres mesures, notamment fiscales, notamment sur l'IS. Et puis, c'était un discours que j'ai trouvé aussi responsable en renvoyant vraiment les patrons à leur propre responsabilité et aussi à la RSE.
Alors, les patrons n'ont pas trop de soucis à se faire. Éric Métoux, par exemple, c'est jackpot. Ils vont toucher deux fois hein, le crédit d'impôt au titre...
Le CICE, l'allègement de charges après, en 2019.
Et voilà, c'est ça, la transformation du CICE l'an prochain. Éric Métoux, ils ont de quoi avoir le sourire, les patrons, en 2018.
Oui, après, ils sont dans un jeu, c'est normal qu'ils viennent réclamer un petit peu plus, ils font pression, enfin, c'est un peu comme les lobbies. Je dirais pas que c'est des experts, leur expertise, c'est de faire pression sur le gouvernement pour en prendre un petit peu plus. Mais oui, enfin, ils peuvent difficilement ne pas avoir le sourire aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement que la politique de Macron, elle était annoncée, il veut combattre le chômage, il veut combattre la crise en aidant les entreprises, parce que c'est les entreprises qui embauchent et c'est elles qui font la richesse nationale. Le problème quand même aujourd'hui qu'il a, et c'est pas le MEDEF qui va en parler, je n'ai pas entendu Roux de Bézieux en parler hier, c'est qu'aujourd'hui les résultats sont pas là, la croissance est pas là, le chômage ne baisse pas de manière sensible, et que c'est quand même là-dessus au final, y compris les entreprises, vont juger les résultats de ce gouvernement-là.
Jacques Isabello, vous les sentez, alors je rebondis hein, sur ce que dit Éric Métoux à l'instant, ils ont de quoi être satisfaits ou il y a une forme d'inquiétude qui plane sur la tête des patrons français ?
On n'est pas revenu à la période Jospin. Ce que les patrons savent, c'est que le secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui est devenu président en charge de l'économie, est un type qui maîtrise absolument parfaitement les dossiers économiques. Et quand on regarde ce qu'il a fait depuis le début, eh bien, s'il y a un sujet sur lequel il y a de la cohérence, c'est l'économie. Loi travail, loi formation professionnelle, des déductions de charges. Il a quand même supprimé l'ISF. Hein. Personne n'avait été capable de le faire, ou alors à ses dépens politiquement. Il l'a fait, donc il est très cohérent. Et son message est clair, c'est de dire, s'il n'y a pas d'employeur en forme, il n'y aura pas d'emploi. Et donc les patrons le perçoivent bien. Là où il a non pas un patron des patrons, parce que Geoffroy Roux de Bézieux aime bien dire qu'il est le porte-parole des patrons,
il peut faire un
bon binôme. Après, là où il faut qu'il installe un bon partenariat, c'est parce qu'il a besoin d'eux pour mettre en place les ordonnances. Il a besoin d'eux pour réformer l'assurance maladie, l'assurance chômage.
L'assurance chômage,
c'est 38 milliards de dettes et c'est 3,5 milliards de déficit chaque année. Donc il a besoin que les négociations se fassent intelligemment pour que les partenaires sociaux et le patronat décident de nouvelles mesures de rétribution des chômeurs. Donc il vient aussi leur dire, eh les gars, j'ai besoin de vous, il faut que vous soyez derrière moi. Alors après, ils vont pas dire qu'ils sont contents, parce que comme tous les lobbies, si jamais vous dites que vous êtes contents, l'année d'après, on vous enlève un peu plus. Parce que
Christophe Gascard, pour conclure sur le sujet, les patrons, finalement, y compris sous Hollande, étaient également caressés dans le sens du poil.
Oui, c'était...
Zigzag, mais c'était zigzag, cette fameuse formule qui qualifiait la position
de Hollande. Ce que j'ajouterais surtout, c'est que Geoffroy Roux-de-Bézieux, il est là aujourd'hui pour essayer de marquer sa patte aussi par rapport à son prédécesseur, par rapport à Pierre Gattaz. Et il sait aussi, et c'est très important, que quand on est dans un temps politique de 5 années, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, c'est dans les 2 ou 3 premières années que toutes les réformes peuvent se faire. Si ça ne se fait pas l'année prochaine, c'est quasiment mort, parce qu'on sait qu'après, il y aura l'élection présidentielle, les sondages vont influer sur une politique et donc ça pourrait changer les choses.
Allez, on marque une pause, ce sera la météo, le retour de l'info et on se retrouve juste après pour évoquer les violences faites aux femmes et Emmanuel Macron face au populisme en Europe. A tout de suite.
Ça va ma chérie? Tu t'en sors avec tous tes dossiers pour la rentrée?
Ouais, vu le nombre de documents à imprimer, ça va me coûter une fortune en encre.
Mais non, fais comme nous. Avec ton père, on a pris un abonnement HP Instant Ink.
Maman, j'ai pas de sous pour ces trucs-là.
Mais c'est gratuit. Avec HP Instant Ink, tu te fais livrer tes cartouches à domicile et tu peux imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois.
Gratuitement?
Je viens de te le dire.
Ah ouais, toi et papa, c'est Huggy les bons tuyaux en fait.
Avec HP Instant Ink et les imprimantes HP, imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
France Info Météo avec Calipage, 300 distributeurs spécialistes de la gestion des fournitures de bureaux. Votre succès commence par Calipage.
La météo, les prévisions avec vous Jean-Pierre Rabaud pour Météo France.
Ce soir, l'activité orageuse se maintient près des frontières du nord-est, des orages encore localement forts avant un retour au calme la nuit prochaine. Demain matin, on retrouvera beaucoup de nuages dans le nord-est apportant quelques averses résiduelles. Au nord de la Loire, le ciel sera partagé entre éclaircies et cumulus. Attention aux bancs de brouillard souvent présents au lever du jour. À noter beaucoup de grisailles sous forme de nuages bas du sud de l'Aquitaine à la région Midi-Pyrénées. Et partout ailleurs, votre matinée sera bien ensoleillée. L'ensoleillement sera même parfait autour de la Grande Bleue, sans oublier l'île de Beauté. L'après-midi, prévoyez du soleil au sud de la Loire, un ciel variable au nord. À noter une évolution orageuse en cours d'après-midi au-dessus des Alpes-Maritimes et de la montagne Corse. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 60 km par heure et les températures maximales seront généralement comprises entre 18 et 26 degrés, comptez jusqu'à 30 degrés dans le sud.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. 8 écoliers sur 10 à la rentrée seront revenus à la semaine de 4 jours. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, lors de sa conférence de presse de rentrée. Une rentrée marquée aussi par l'entrée en vigueur de l'interdiction du portable au collège et le début de la réforme du bac pour les élèves de seconde. Pas de séminaire pour le gouvernement. Il était prévu initialement vendredi. Il est reporté à la semaine prochaine. C'est l'une des conséquences de la démission surprise du ministre de l'écologie Nicolas Hulot hier. Le prochain conseil des ministres prévu vendredi est lui maintenu. Les méthodes du gouvernement n'ont pas changé. C'est ce qu'a déploré le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez à la sortie de Matignon aujourd'hui. Il a mis en garde le Premier ministre sur la réforme à venir de l'assurance chômage. Édouard Philippe a entamé aujourd'hui sa série d'entretiens avec les syndicats. L'homme qui a reconnu avoir frappé au visage une jeune femme fin juillet en plein Paris sera jugé demain. Cette scène avait été filmée par les caméras et diffusée en masse sur les réseaux sociaux. Marie Laguerre, c'est le nom de la victime, avait répondu aux remarques obscènes de cet homme et avait reçu un coup de poing. Elle n'a pas eu besoin d'aller au commissariat pour l'identifier.
J'étais censée l'identifier dans une pièce, voir si j'étais capable de le reconnaître, mais étant donné qu'il a reconnu les faits et que je l'avais déjà reconnu sur photo, je n'ai pas eu besoin en fait de l'identifier dans une pièce. Il reconnaît les faits et il les explique tout simplement que apparemment, en citant ces mots, que je me dandinais dans la rue et que je suis passée exprès devant lui. Quelque chose comme ça. Enfin, de toute manière, je le laisserai. Je pense qu'il aura la chance de s'exprimer demain. Pendant le jugement, donc il expliquera très certainement avec ses mots.
L'opposition est frontale entre Emmanuel Macron et les dirigeants hongrois et italiens. Réunis à Milan, Viktor Orban et Matteo Salvini s'en sont pris au président français, accusé d'être le chef de file des partis pro-migrants. Pris pour cible, le chef de l'État a répondu depuis Copenhague, où il est en voyage officiel. « Je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine », a-t-il notamment déclaré. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué la possibilité d'un accord d'ici vendredi sur la révision du traité de libre-échange nord-américain sur lequel les États-Unis et le Mexique ont déjà trouvé un terrain d'entente. L'US Open de tennis à New York, c'est le début du deuxième tour et des difficultés pour les joueurs français. Hugo Humbert est en grande difficulté face au Suisse Wawrinka. Il est mené 2-7-1, 5 partout dans la quatrième manche. Et puis opposé au Canadien Milos Raonic, Gilles Simon est lui aussi mené. Il est mené 2-7-0. Il est en difficulté dans le troisième. À suivre un peu plus tard dans la journée, Jérémy Chardy face au Sud-Africain Kevin Anderson. À suivre tout de suite sur France Info, les informés avec, bien sûr, Jean-François Aquili.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank du cercle de réflexion France Audacieuse, Eric Métou, le directeur adjoint de la rédaction de l'Express, avec Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, et Christophe Gascard, mon complice journaliste de France Info. Alors c'est un détournement heureux, l'homme qui a reconnu avoir agressé Marie Laguerre. C'était le 24 juillet dernier devant un café à Paris, sera déféré au parquet de Paris et comparaîtra devant la justice. La jeune femme de 22 ans, souvenez-vous, avait publié sur les réseaux sociaux ces images de vidéosurveillance montrant son agression, ce qui avait fait, il faut le dire, grand bruit. Cette affaire a mis en lumière le harcèlement permanent que subissent toutes les femmes au quotidien. Écoutez ce très court témoignage de Caroline. C'est une jeune Strasbourgeoise invectivée dans la rue. Tendez bien l'oreille.
Oui, oui, on sait que t'es mignonne.
Pardon ?
Oh !
Oh !
Femme,
voilà, c'est ça d'être une femme à Thrace, les gars. Donc on vient de me dire, baisse ta mère, parce que je suis en jupe.
Alexia Germont, c'est... je sais pas quoi dire après un
tel extrait. Il y a du chemin à faire.
Oui.
Enfin, il y a vraiment du chemin à faire. C'est beaucoup de femmes, quels que soient les âges. C'est vrai qu'il faut, avoir une... En fait, on se prend à devoir avoir une attitude en réserve.
C'est permanent, hein. C'est quotidien, permanent.
Oui, on fait attention. Voilà, on fait attention. Et ça, c'est quelque chose qui ne se ressentait pas il y a quelques années. Et il me semble... Alors, quand on voit, si on raccroche ça au mouvement, bien sûr, balance ton porc, moi, je vous dirais qu'à titre personnel, je n'aime pas ce qui va trop dans l'outrance, et j'ai trouvé que c'était quelque chose, à la fois il faut avoir une parole libératrice.
Vous voulez dire que MeToo allait trop loin ?
Ben MeToo emporte très largement, et comme toujours, il y aura un mouvement de balancier en tout cas ça aura libéré la parole. En ça, c'était tout à fait salvateur. Après, il faut surtout que ça ne soit plus un combat de tous les jours. Et c'est là où on se dira que les choses ont évolué. Mais quand on entend un extrait comme ça, ça fait froid dans le dos.
C'est la vie quotidienne. Hein. 100% des utilisatrices des transports en commun en France, au moins une fois victime de harcèlement ou d'agression sexuelle, selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça date de 2015, Jackie Isabello. Mais au fond, les choses ne changent pas. Elles empirent, comme le dit Alexia Germont. Vous pensez que ce qui va se passer d'un point de vue législatif va changer les choses ? Mais d'abord sur le comportement des Français là-dessus.
Moi, j'ai quelques amis qui ont signé la tribune de Catherine Deneuve. Et honnêtement, quand j'ai lu leur nom...
Alors, rappelez de quoi il s'agit.
Cette fameuse tribune qui disait, bon, écoutez, ça suffit, on a un peu envie de se faire... Qui mettait un bémol. Et moi, je leur ai dit, votre attitude est insupportable. Parce que les femmes qui prennent le métro, elles subissent les outrages de gens qui sont physiquement beaucoup plus fortes qu'elles et qui sont cérébralement complètement dénuées de la moindre réflexion. Et que ce combat, il a permis aux parents qui ont deux enfants, une fille, un garçon, de dire aux garçons, attention, tu fais très attention et très rapidement. Et je pense que ce mouvement-là, il a permis d'éduquer énormément de gens parce qu'il y avait des progrès à faire. Vous savez, Françoise L'Héritier, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a été une grande anthropologue, elle a écrit que ces comportements hyper machistes, ils sont installés dans notre société, mais partout et depuis très longtemps. Et quand elle découpe la manière dont on a organisé l'héritage, la transmission, elle vous dit, mais c'est pas un hasard aujourd'hui si on a de tels comportements. Et ces combats-là, même s'il y a eu des choses assez atroces qui sont dites, il ne faut pas tout reprendre, et ben ces combats-là, ils ont véritablement permis à tout le monde d'aborder les choses et à deux générations, c'est-à-dire la plus jeune, parfois de dire à la plus ancienne, fais gaffe, ça se fait plus, tu peux plus dire ça comme ça.
Donc pour vous, Jackie, pas de bémol là-dessus, il faut y aller
à fond la caisse. Et moi, je travaille dans un métier où j'ai 85-90% de femmes. C'est indispensable qu'elles comprennent qu'il n'y a pas que des femmes et qu'il y a des mecs aussi qui sont à côté d'elles parce qu'on a tous une mère, une sœur, une fille, etc., etc.
Christophe Gascard, c'est une campagne médiatique, hein, c'est un déclic médiatique, cette vidéo de Marie Laguerre, et au fond, ça se finit demain, je crois, devant un tribunal. Il faut s'en réjouir, mais une affaire qui est médiatisée, mais pour un océan d'affaires invisibles, si je puis
dire. Oui, mais en même temps, on voit qu'Internet, et on voit que la deuxième vidéo où vous avez vu cette jeune fille, c'était au mois d'août, hein, c'était seulement le 22 août, ça force aussi les femmes à se dire, on va pas, aujourd'hui, ces crimes-là ne sont plus impuni. Et moi, je vois ça plutôt d'une valeur très, c'est très positif. Aujourd'hui, il y a l'État, il y a le politique qui s'en est pris. On a un ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes, avec Marlène Schiappa. Il y a quand même, en quelques années, il y a eu une évolution énorme. Et on le voit d'ailleurs dans la première vidéo. Quand cette jeune femme se fait gifler, il y a une réaction immédiate quand même de tout l'entourage, même s'il y a une sorte de, voilà. Et il y a des personnes qui se lèvent. Et moi, je le vois aussi dans le comportement. Et c'est ça qui est important, c'est que les hommes aujourd'hui, eh bien, ils se rendent compte. Et je pense que quand on est dans le métro, moi, ça m'a arrivé de voir effectivement certaines personnes qui sont invectivées. Eh bien, les hommes aussi réagissent aujourd'hui. Avant, c'était un peu, voilà, ça faisait partie du machisme ambiant. Si ça peut faire évoluer les choses, tant mieux. Et c'est plutôt bien que le politique également s'empare de cette affaire.
On va venir au politique dans un instant, Rick. Mais tout, vous croyez-vous à une sorte de déclic, de prise de conscience collective de la société là-dessus?
C'est un point de départ. Après, je pense pas que ça va aller très vite. Parce qu'il y a des tas de freins. Là, on parle le film dont vous parlez, la jeune femme qui a mis le premier
cet extrait,
la séance de la vidéo surveillance
de Marie Laguerre.
Marie Laguerre. C'est pas une femme des quartiers sensibles, comme on dit. C'est aussi une question d'éducation et que quand même, il reste des tas d'endroits.
C'était le cas de l'extrait diffusé. J'aurais dû le préciser, qui est tourné dans un quartier sensible.
Je pense pas que ça ait changé grand chose. C'est-à-dire que les trois types qu'on a vus, les trois crétins qu'on a vus sur ce film-là, ils vont continuer à faire exactement la même chose, réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux. Donc c'est un boulot énorme, ça va prendre du temps. Alors si c'est un point de départ, d'abord on peut pas le dire aujourd'hui, on le saura demain. Mais c'est vrai que c'est un boulot de dingue, quoi. Enfin, je veux dire, on a un tel retard à rattraper et on a du retard à rattraper sur lequel s'ajoutent des facteurs aujourd'hui, la religion. Il y a certaines religions qui ont de la femme une vision quand même un peu particulière. En tout cas, certains pratiquants de cette religion qui ont de la femme une vision un peu particulière. Enfin, il y a un boulot de fou, quoi.
Allez, on en parle dans un instant à 20h40 sur France Info après le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
La rentrée sociale se prépare. Les partenaires sociaux sont reçus par Édouard Philippe à Matignon. La CGT et la CFTC aujourd'hui. Le MEDEF et Force Ouvrière demain. Les rencontres vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine avec en ligne de mire notamment la réforme de l'assurance chômage. Après les affrontements entre pêcheurs français et britanniques en pleine mer, la Commission européenne appelle à un accord à l'amiable entre les deux pays. Accord qui permettrait d'encadrer la pêche des coquilles Saint-Jacques, un sujet sensible, source de tensions récurrentes entre les pêcheurs. Une opération d'évacuation dans le métro parisien ce soir sur la ligne 14. Un incident électrique interrompt totalement le trafic. Les passagers qui se trouvaient bloqués dans les rames ont dû être évacués par les agents de la RATP. Vladimir Poutine recule face à la contestation. Il assouplit sa réforme des retraites. Le président russe propose que les femmes cessent le travail à 60 ans au lieu de 63, comme c'était prévu dans le texte initial. Pas de changement, en revanche, pour les hommes. Et puis à l'US Open de tennis, les Français doivent retrousser leurs manches. Le jeune Hugo Humbert s'incline face à l'expérimenté Stan Wawrinka. Gilles Simon est lui mené par Milos Raonic en ce moment. À suivre ensuite Jérémy Chardy face à Kevin Anderson.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci Boris. Marlène Schiappa veut s'attaquer au problème avec son projet de loi censé notamment punir le harcèlement de rue. Problème, eh bien il faut un flagrant délit. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes était ce matin l'invitée de France Info.
Il n'y aura pas de preuve puisque c'est basé sur du flagrant délit, comme ça l'est pour le flagrant délit d'excès de vitesse ou le flagrant délit de cambriolage ou le flagrant délit de vol.
Il faudrait qu'un homme passe devant un policier au bon moment, entre guillemets, et prononce une insulte ou un sifflement devant le policier.
Alors l'idée, c'est que la police justement soit formée à repérer cela. Moi, ma conviction personnelle, c'est que la police est tout à fait fondée à le faire, qu'elle est très désireuse d'ailleurs de s'engager.
Alexia Germont, bon, c'est très bien, le principe est bon, mais ça va être compliqué. Hein.
C'est la faiblesse technique de la loi. Et par ailleurs, la loi qui a été entérinée là cet été apportait des avancées considérables sur un certain nombre de points. Mais sur celui-là, on sait bien que c'est le talon d'Achille.
C'est la même chose pour l'homophobie. Hein.
Christophe Gascard.
On est exactement dans le même cadre que pour l'homophobie ou pour le racisme. Hein. C'est-à-dire, c'est très difficile pour le législateur de pouvoir condamner quelqu'un sans avoir une preuve. Alors après, elle n'en parle peut-être pas, mais on n'a qu'un extrait, mais je pense que la vidéo suffit. Et là, on exactement. Le voit d'ailleurs, cette vidéo publiée, bon ben, ils ont retrouvé la personne.
Mais effectivement, mais voilà. Tout le monde n'a pas forcément le réflexe de filmer l'extrait vidéo.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, on le voit quand même, tout le monde a un portable. Quel que soit l'endroit, on arrive quand même. Alors certes, malheureusement, hein, ça, c'est toujours le problème, mais c'est déjà un grand pas. Moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve qu'on est déjà...
Il faudrait former à ce moment-là l'esprit citoyen, en sachant que dans les transports, par exemple, si on voit quelque chose se passer, à ce moment-là, au moins d'avoir le réflexe de prendre en vidéo. Mais généralement, le réflexe est surtout...
La RATP filme dans les rames. Sur les quais. C'est vrai que l'outil de vidéosurveillance doit être renforcé juridiquement pour permettre de pallier ce texte. Je me rappelle, des débuts de la discussion, on disait que ça va être compliqué. On s'aperçoit que cet exemple, bah, c'est pas compliqué. Elle est allée voir le cafetier, elle lui a dit « j'ai besoin des images ». Il a transmis les images. Après, les policiers et la justice font leur travail par rapport à la qualité de la preuve transmise. Et puis après, quelqu'un qui fait ça, c'est pas non plus un parrain de la mafia. Regardez celui qui a mis cette gifle, c'est juste un abruti fini. Ils l'ont attrapé, ils lui ont dit c'est toi, il a tout de suite avoué. Nous, ça nous permet d'en parler et ça permet de montrer que ça ne reste pas impuni. Et donc, la peur du gendarme sera notre meilleur allié. Donc, si on arrive à aller jusque-là, vous verrez que on arrivera à faire de grands pas. Après, là où vous avez raison, alors, c'est que dans certains banlieues sensibles, ça va être extrêmement compliqué. Mais
là où il y a beaucoup de violence,
elles s'organiseront pour faire en sorte. Mais
dans les quartiers sensibles, dans des cafés, enfin, je parlais, il n'y a pas que les quartiers sensibles. Il y a aussi des cafés de province, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, le rôle de la femme, je parlais d'une certaine religion, mais il n'y a pas qu'une certaine religion. Il y a d'abord à peu près toutes les religions.
Le machisme est une donnée universelle.
Voilà, assez répandu. Mais la loi, c'est important parce que c'est symbolique.
Ce sont des marqueurs.
Après, moi, je suis curieux de voir dans deux ans de faire le compte de toutes les condamnations qu'il y aura eu à partir de cette loi.
Vous pensez, Eric, que la PSQ, la police de sécurité du quotidien, sera en mesure de multiplier les interpellations
et techniquement, c'est possible. Après, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Enfin, non, je pense qu'on va avoir très peu de condamnations, qu'elles seront très bien médiatisées, et tant mieux, mais que cette loi, elle a avant tout une portée symbolique. Derrière, c'est de l'éducation. Enfin,
c'est une génération.
Mais de toute façon, c'est un travail de génération. Faut le savoir. Faut pas imaginer que parce que d'un seul coup, on a libéré la parole, parce qu'il y a une affaire comme celle-là, tout va s'arranger. Ça va prendre énormément de temps. Il faut en être conscient. Enfin, faut pas être trop optimiste et mettre trop de choses derrière. Et MeToo est derrière cette heureuse fin d'une triste affaire.
Allez, à 20h46 sur France Info, nous allons aborder le dernier sujet. Emmanuel Macron cible des populistes. Voilà, le chef de l'État a répliqué aux dirigeants italiens et hongrois Matteo Salvini et Viktor Orban, déclarant qu'ils avaient raison de le voir, lui, comme leur opposant principal en Europe sur le dossier des migrants. Vous allez entendre successivement proposer le sujet, eh bien, le ministre de l'Intérieur italien et le Premier ministre hongrois, et ensuite la courte réponse d'Emmanuel Macron.
Je peux dire que nous travaillons chacun de notre côté à construire une future alliance qui remet au centre les valeurs et les identités qui représentent nos mouvements politiques et nos gouvernements.
Macron est aujourd'hui en Europe à la tête de ceux qui soutiennent l'immigration. Et d'un autre côté, il y a nous. Nous qui voulons mettre fin à l'immigration illégale.
Je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc s'ils ont voulu voir en ma personne leur opposant principal, ils ont raison.
Jackie Isabello, voilà donc en pleine tempête Hulot, notre président devenir depuis la Scandinavie, le rempart contre le populisme.
Et vous avez vu qu'il a toujours les mêmes traits de caractère, ce fameux idiosyncratie, hein, puisqu'il nous a sorti le terme il y a très longtemps, c'est que c'est un bagarreur. Il vient leur dire, il a dit dans l'affaire Benalla qu'ils viennent me chercher, là il leur dit exactement la même chose. En tout cas, si on avait un doute sur la thématique qui va inonder la campagne des européennes, je crois que les doutes sont levés. Ça va être immigration, les frontières et puis les différents modèles de société qui sont proposés. Alors Salvini et puis Orban ne sont pas du tout dans les mêmes groupes politiques en Europe, donc on les laissera régler leurs problèmes. Et en tout cas, de ce point de vue-là, on est certain que ça va dérouler sur ce sujet pendant les 6 prochains mois ou les 9 prochains mois.
Alors pour rappeler le cadre de cette histoire, c'est parti de Milan. Le Premier ministre hongrois avait appelé le ministre de l'Intérieur, je lis, hein, son héros est désigné. En revanche, Emmanuel Macron comme l'adversaire principal en Europe. Il y a actuellement deux camps, a dit Viktor Orban. L'un est dirigé par Macron, donc c'est celui qui au fond, protégerait les migrants. Alexia Germont, est-ce que au fond, ça correspond à la réalité?
Alors, je crois que Viktor Orban a d'ailleurs dit qu'il y avait le clan des européistes. Et Salvini était plus sur les pro-migrants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose non plus et en termes d'élections européennes et de campagne électorale que l'on va avoir. C'est vrai qu'on voit bien une vision une fracture finalement entre les pays finalement en Europe où vous en avez déjà 5 qui ont des partis populistes au pouvoir. C'est pas pour faire un état des lieux qui fasse froid dans le dos, mais je crois qu'il faut quand même être très réaliste et rappeler ces choses-là, mis à part le Brexit, vous avez déjà 5 pays dans lesquels les partis populistes ou ultra-conservateurs sont aux manettes. Et puis à côté de ça, vous avez aussi 5 autres pays où vous avez des populistes qui sont aux portes du pouvoir.
Vous y mettez la France ?
Bah, oui, il y a quand même, oui, bien sûr, il y a quand même deux partis. Vous avez à la fois Marine Le Pen et vous avez Mélenchon qui ont, dans des styles différents, des votes et des appels aux voix excessivement populistes. Maintenant, il ne faut pas non plus, vous n'êtes peut-être pas d'accord.
Non, j'aurais rajouté Laurent Wauquiez, moi, mais c'est très personnel.
Mais en tout cas, on voit bien que le couple franco-allemand ne va pas non plus suffire à Emmanuel Macron pour relancer son projet de refondation. Quand on voit aujourd'hui son voyage d'État au Danemark notamment, c'est aussi parce qu'il va chercher du soutien auprès d'autres alliés.
Allez, nous allons poursuivre sur ce sujet. Il y a Christophe Gascard qui piaffe à côté. 20h50 sur France Info. L'ultime rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Les anti-ours manifestent dans les Pyrénées-Atlantiques. Près de 200 personnes se sont rassemblées dans un village pour dire leur refus de l'introduction de spécimens dans le département. Un projet que défendait Nicolas Hulot. Pour les bergers, sa démission ne change rien. Il reste donc mobilisé. Conséquence de cette démission, le séminaire gouvernemental de rentrée prévu vendredi n'aura pas lieu. Il est reporté à la semaine prochaine, le temps de trouver un successeur à Nicolas Hulot. Le gouvernement se réunira tout de même en Conseil des ministres vendredi matin. Le Canada et les États-Unis renégocient leur accord de libre-échange et la responsable canadienne se dit encouragée par l'avancée des discussions. Parmi les enjeux, l'avenir du commerce des produits laitiers. Un accord pourrait être conclu d'ici vendredi, selon le Premier ministre canadien. C'est fini pour Hugo Humbert et Gilles Simon à l'US Open de tennis à New York. Stan Wawrinka et Milos Raonic ont été trop forts pour eux. Prochain match à suivre pour les Français, Jérémy Chardy face à Kevin Anderson. Et puis ce n'est pas une surprise, le vin attire les touristes à Bordeaux. La cité du vin a ainsi passé le cap du million de visiteurs. Ouvert en 2016, le musée a accueilli des visiteurs de 176 pays différents.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors merci Boris Allier. N'oubliez pas, moins d'un verre par jour d'après la publication récente du Lancet. Alors Christophe Gascard, au fond, ne sommes-nous pas face à des postures après tout La France a été récemment, si mon souvenir est bon, accusée au fond de retard à l'allumage avec l'Aquarius. Alors en quoi y aurait-il d'un côté ceux qui au fond voudraient fermer les frontières et de l'autre un président, au dire des premiers, immigrationniste, si je puis dire?
Je crois que c'est difficile aujourd'hui de faire un procès d'intention sur Emmanuel Macron concernant l'Europe. Je veux dire, clairement, il se pose aujourd'hui comme un défenseur de l'Europe. On en parlait il y a un instant. Je veux dire, on est dans une période où l'Europe est malade. À mon sens, il est aujourd'hui un peu le Dr House de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas grand monde. Je trouve que, en l'occurrence, l'Allemagne est quand même vraiment absente. On ne l'entend plus, Angela Merkel. Aujourd'hui, s'il y a bien une personne qui porte, et quelle que soit d'ailleurs son opinion politique, s'il y a bien quelqu'un qui essaye aujourd'hui de porter la voix de l'Europe. Aujourd'hui, effectivement, il est en Scandinavie, dans les pays scandinaves. C'est la première fois depuis qu'un dirigeant français, depuis 1982, hein, quand même. Donc, on sent bien qu'il essaye d'élargir son socle. Il essaye, effectivement, de faire face à ces populistes. Et vous avez raison, ils sont de plus en plus importants. Moi, je trouve qu'on vit une période où l'Europe est vraiment malade. La sortie de la Grande-Bretagne, le Brexit, on vit un moment particulier. Et moi, je suis assez... pessimiste sur effectivement la montée des extrêmes et je trouve ça plutôt bien qu'une voix, même si effectivement c'est celle du président français, mais on peut aussi s'en réjouir, qui porte ces valeurs-là.
Écoutez, j'entends le plaidoyer de Christophe Gascard. Qui veut réagir? Peut-être vous, Éric Métou, je vous sens frémir là.
Oui, évidemment, Macron dans le discours, il défend l'Europe et c'est un des derniers dirigeants européens à le faire avec autant de force. Mais est-ce qu'il la défend bien?
Au moins,
on parlait de diosyncrasie et de match de boxe tout à l'heure. C'est-à-dire, plutôt que de faire de la boxe, il ferait mieux de faire du judo. C'est-à-dire que quand même, de laisser cette espèce de discours nauséabond discréditer les populistes, plutôt que de se poser comme ça, comme une espèce de chevalier blanc face à eux. Il est en train
de faire quoi alors? Il faut croiser les bras.
Non, il ne faut pas croiser les bras, il faut être intelligent. Mais il fait leur jeu. Ils n'attendent que ça. Quand Orban et Salvini font une conférence de presse comme ils ont fait hier, c'est précisément pour que Macron réagisse de cette manière-là. Je suis contre vous. Et puis maintenant, on va montrer des... Non, mais c'est pas ça, la diplomatie.
Ouais. Il faut gagner.
Effectivement, le populisme gagne en Europe. Il faut faire le constat. Il faut faire avec. Et il faut essayer de négocier avec ces gens-là. On n'a pas le choix. Ça sert à rien d'aller se mettre contre eux. Et effectivement, en plus, ça va polluer la campagne électorale, qui va ne parler que de ces sujets-là, parce que c'est ces sujets que Salvini et l'extrême droite et la droite la plus radicale en Europe veut mettre sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il va se mettre sur ce territoire-là?
Mais il y a des vraies divergences sur les valeurs, quand même.
Mais bien sûr qu'il y a des vraies divergences sur les valeurs.
C'est important, c'est de dire qu'il est pas d'accord.
La force des créateurs de l'Europe, des monnaies, de l'or, etc., c'était leur puissance de conviction et de négociation. Mais il ne convainc personne en faisant ça, Macron. Il ne convainc personne.
Alors, Jackie Isabello, est-ce qu'on n'est pas, j'entends bien les arguments des uns et des autres, est-ce qu'on n'est pas au fond dans un débat d'europhiles face à des europhobes, dont on le sait depuis le départ, et au fond, la question des migrants, quelque part, peu ou prou, tout le monde partage à peu près le même point de vue sur des centres où on recueillerait les personnes, on les renverrait chez elles, de l'aide au développement. J'ai l'impression que tout le monde dit à peu près le même discours, qu'on se sert des migrants, mais qu'au fond, tout le monde partage le même point de vue pour parler d'autre chose.
En tout cas, ça nous permet d'installer un combat politique là où je suis pas tout à fait en phase avec Eric, si je peux me permettre. Et dire, c'est pas de la diplomatie. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, c'est plus une relation entre ministre des Affaires étrangères ou le président en charge de la politique étrangère. Ce sont des chefs de parti qui essayent de conquérir une place au sein d'une assemblée dont on commence à comprendre qu'elle a de l'importance. Et donc, à ce titre-là, en tant que chef de parti ou représentant de pôle politique, eh ben, ils sont en train de se combattre avec des arguments politiques. Et à ce titre-là, ils ne font pas de la diplomatie. Pour Emmanuel Macron, c'est du pain béni parce que, politiquement, il va être le tenant d'une ligne européiste face à tout un tas de pays qui soit se sont positionnés de l'autre côté ou sont en train de basculer du mauvais côté. Et il va pouvoir également, en France, au sein des différents partis de politique française foutent la pagaille. Donc en fait, ça va être un espèce d'ennemi commun et politiquement, eh ben ça en fait l'axe central, la personnalité la plus visible, donc la plus cohérente, et donc électoralement, c'est pas complètement déconnant. Après, s'il multiplie les affaires en France, effectivement, va payer
les pots cassés. Utiliser les mêmes armes.
Mais c'est de la pure politique. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout de la diplomatie.
La politique, c'est pas s'invertiger d'une conférence de presse à une autre conférence de presse.
C'est là où ça a changé déjà.
Là où je suis assez d'accord avec vous, c'est que ça ne suffira pas en tout cas pour inverser la tendance.
Il faut, c'est contre-productif.
Contre-productif, on verra. Je pense que tant que il faut raviver la flamme dans le cœur des citoyens européens, le lien a été coupé avec
qu'est-ce
l'Europe.
Qu'est-ce que vous appelez raviver la flamme?
Raviver la flamme, c'est...
Alors, mais là, Eric a raison, c'est-à-dire que ça ne va pas la raviver en se parlant comme ça.
C'est un sujet que je regarde précisément parce que je sors un bouquin là-dessus.
Poignée de secondes.
Tant que vous donnerez pas des projets avec une Europe de la défense, avec une Europe au service des Européens, avec une Europe qui fait rêver.
Ils y sont les projets. Le problème, c'est la réalisation des.
La réalisation, c'est aussi le manque politique. Donc là, c'est la responsabilité des politiques.
Allez.
On fait une autre émission.
Allez, on promet. Éric Métou, la une de l'Express demain.
La une de l'Express demain, c'est le spécial immobilier avec le spécial, c'est le marronnier, et à l'intérieur il y a une interview d'Alain Finkielkraut sur son nouveau dada. Alain Finkielkraut défend les animaux.
Très intéressant en plus à lire, je l'ai feuilleté. Allez, merci Eric Métou, merci Alexia Germont, merci à vous Christophe Gascard, vous revenez, et Jackie Isabello aussi, vous êtes chez vous. À demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés sur France Info. Merci.